And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission du 12e homme. Au programme du jour, on parlera de la 33e journée de Ligue 1. On parlera de Marseille et de son mal du domicile. On parlera du PSG et de l'AS Monaco. Ensuite, on fera un focus sur la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse en point monde. Du coup, ça sera un point français. Donc tout d'abord, les résultats de cette 33e journée de Ligue 1. Lyon gagne à Strasbourg 2-1, Lille bat Ajaccio 3-0, Montpellier gagne 4-0 sur le Rocher, Nice bat 3-1-0, Rennes bat Angers 4-2, Clermont bat Reims 1-0 et poursuit sa belle série, Lorient surprend le PSG et gagne 3-1 au Parc des Princes, et enfin Marseille bat difficilement Auxerre 2-1, un petit point à classement. Donc le PSG est toujours premier avec 75 points, 5 points d'avance sur Marseille, 70 points. Lance match en retard à 66 points, Monaco 4e, 61 points, avec Lille 2 points derrière, 59, et Rennes 6e, 56 points. Derrière, tout derrière, on a 3 équipes, Angers, donc c'est sûr, ils vont en Ligue 2, 14 points, Ajaccio et 3, ça semble bel et bien se diriger également vers la Ligue 2, et ensuite c'est un match à 4, avec Brest, Nantes, Strasbourg, Auxerre, qui se tiennent en 1 point. Donc 32 points pour Brest, Nantes et Strasbourg. Et Auxerre, 33 points. Donc jusqu'au bout, ça sera serré entre ces 4 équipes pour savoir qui c'est qui descendra en Ligue 2.
Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. Ah oui, à quoi vous faites allusion? On va s'en occuper.
Et après ces petites statistiques, on enchaîne, on ouvre notre page Ligue 1. Avec Thomas qui va nous parler de Marseille. Et Marseille qui a en fait du mal à gagner devant, on peut l'avouer, même si on n'est pas supporter à Marseille, devant le plus gros public de France.
Oui, on peut le dire. Oui, je voulais parler de Marseille parce que, j'ai remarqué, enfin, je pense que tout le monde a remarqué, c'est une constante depuis le début de saison, que Marseille est très bon à l'extérieur. D'ailleurs, c'est la première équipe à l'extérieur. Et par contre, c'est la 5e équipe à domicile. Il lâche beaucoup de points. Et ce week-end, on a eu un peu, le match symbole, même s'il gagne à la fin, de la saison de l'OM à domicile. C'est-à-dire qu'il joue contre une équipe qui joue bloc bas, qui joue en contre. Et vu que les centraux marseillais jouent tellement haut, ils se font prendre à chaque fois dans leur dos. La petite équipe marque un but venu un peu de nulle part. Et après, ils ont du mal. Tout le match a marqué un but. Ils ont deux occasions, mais ça rentre pas. Bon, là, ils ont réussi à marquer deux buts à la fin. Mais on voit que c'est quand même très très compliqué. Ils ont perdu 4 matchs contre Lens. On se rappelle, enfin moi je me rappelle du match. Ils perdent 1-0 sur le but de Da Costa. Marseille a dominé tout le match. Ils prennent un but à la fin, un but qui est venu d'ailleurs. Pareil contre Ajaccio. Ils perdent 1-0 avec Balerdi qui marque contre son camp. Ils n'arrivent pas à revenir, pourtant ils prennent le but tôt. Contre Nice, ils perdent. Bon là c'était différent et plus d'intensité. C'était déjà. Nice avait bien dominé. Et après aussi, bon, le PSG, bon, où ils perdent 3-0, honnête et sans bavure. Mais. Pourquoi est-ce que Marseille a du mal à domicile? Alors, moi, je pense qu'il y a deux hypothèses qui sont assez simples. Hein. C'est que déjà, peut-être qu'il y a une petite pression des supporters. Ils ont peut-être du mal à gérer cette pression. Déjà, en Ligue des Champions, on l'a vu contre Francfort, le premier match à domicile, ils n'ont rien fait du match. Et même en Ligue Europa l'année dernière, à domicile, ils avaient beaucoup, beaucoup de mal. Et deuxième supposition, c'est peut-être qu'ils ont du mal contre les équipes qui bétonnent. C'est-à-dire que les petites équipes qui viennent au Vélodrome, en général, ça joue à 9 derrière avec... l'attaquant devant, et puis ça fait un mur, c'est très compliqué, on l'a vu au Maroc à la Coupe du Monde, de jouer contre une équipe qui joue à 10 derrière, c'est extrêmement compliqué de transpercer le mur, donc c'est peut-être aussi dû aux caractéristiques des équipes, parce qu'on a vu contre des équipes qui jouaient, contre Paris par exemple, hop, il y a eu de l'action, mais ils ont perdu 3-0, contre Nice, pareil, une équipe qui jouait,
ils ont perdu, ouais.
Une équipe, même contre Toulouse, ils ont perdu 6-1 contre Marseille là-bas, mais Toulouse c'est pas une équipe qui ferme le jeu, donc c'est peut-être dû aux équipes qui viennent chez eux. Et ce week-end, j'ai envie de dire, ça tombe bien pour Marseille, ils jouent à l'extérieur contre Lens. Sauf que Lens, c'est aussi une équipe, au contraire de Marseille, qui est imprenable, quasiment à domicile. Une défaite cette année à domicile, je pense que Phila sait très bien de quoi je parle, c'est la victoire de Nice à Lens. Donc ça va être très intéressant de voir ce match qui est un peu le choc de la Ligue 1, parce que à part le PSG, il y a plus que cette... Enfin, il y a la lutte au maintien, mais moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est intéressant, mais la lutte pour la deuxième place, ça va être le piment de la fin de saison. La lutte à deux avec Lens est peut-être légèrement en faveur de Marseille. Déjà dans le calendrier où on voit Lens qui va jouer déjà contre Marseille, qui va jouer Reims, qui va jouer Lorient, qui va jouer des équipes. Enfin, Reims maintenant, j'ai l'impression qu'ils soient un peu calmés, mais normalement ils jouent des grosses équipes. Et Marseille, eux, justement, ils vont jouer plus de matchs extérieurs sur les 5 derniers matchs, 3 matchs extérieurs et 2 à domicile. Bon, après ils jouent contre des petites équipes, ils jouent contre Angers qui a plus rien à jouer, ils jouent contre Strasbourg, je crois. Ah non, ils ont déjà joué Strasbourg. Je ne sais plus contre qui ils jouent, mais bref, ils jouent contre des petites équipes. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Après, si je devais mettre une pièce sur une des deux équipes qui finirait l'une devant l'autre, je mettrais quand même une petite pièce sur Marseille qui semble avoir un peu plus de qualité individuelle que Lens, qui est un peu brouillon quand même devant le but.
Erwan, est-ce que tu veux réagir soit sur l'atmosphère du coup de Marseille, si ça pèse sur Marseille ou pas, ou sur justement ce duel entre Lens et Marseille ?
Marseille à domicile. Déjà, c'est tout dit, Marseille à domicile. Les mecs, en même temps, la pression, elle est dingue. T'arrives à Marseille, le mec, il met une frappe un mètre à côté, il a 30 000 bouteilles qui lui sautent à la gueule. Le mec, il leur balance des parpaings à la gueule. T'arrives à Marseille, tu dois jouer à Marseille, t'as une pression de dingue. Normal, à l'extérieur, ils gagnent tout. À domicile, la pression du supporter, elle est énorme. Honnêtement, la pièce, elle est pas sur Marseille. Marseille finira en troisième, ils iront faire leur petit tour à Donetsk, à je sais pas où, pour aller faire. Pour aller
on voit le supporter de Lyon qui parle.
Moi je mets Lens, merci, bonsoir. Lens à domicile, les mecs ils bronchent pas, à l'extérieur ils bronchent pas. C'est une équipe de dingue, c'est un bloc bas. De toute façon, c'est ce qu'on a dit, c'est Lens c'est un bloc bas et Marseille face au bloc bas, ils vont se chier dessus. Et puis en plus, à Lens qui a perdu un match. Le match miraculeux, les Niçois.
C'est pas miraculeux.
Ouais, vous êtes passé en travers des grilles. Mais non, c'est Lens qui va finir deuxième. C'est tout ce que j'ai à dire.
Pas très objectif quand même.
Comment ça ?
C'est ça que Marseille, là j'ai vu, ils jouent Angers, puis après ils vont à Lille. Bon, Lille à domicile, ils sont bizarres. Et après, c'est Marseille.
Il y a trois, je crois, non, dans le lot.
Et après, ils jouent les deux équipes, Ajaccio et Brest.
Ouais. Brest.
Donc des équipes qui vont tout donner pour le maintien. C'est vrai que Marseille, c'est bizarre. À chaque fois, c'est vrai que ça rentre pas. Comme contre, j'ai le match en Coupe de France contre Annecy, oui. Je me fous de ce match-là. Même contre Strasbourg, où ils reviennent, c'est Aoulou, je crois, il met deux buts fantastiques, ouais. Qui viennent d'ailleurs un peu comme le but d'Auxerre. Ouais, voilà, c'est compliqué pour les Marseillais à domicile, mais moi je pense que je mettrais une petite pièce sur Marseille deuxième.
S'ils avaient réussi toute la saison à gagner des matchs à domicile, ils seraient champions sans problème.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, ils seraient en tête. Largement.
Ah ouais,
le problème, c'est que quand tu changes la tactique à chaque week-end, un coup t'es à 3, un coup t'es à 4 derrière.
Non, ils ont joué à 3 toute la saison. Hein.
Pas toute la saison. Il y a des fois où ça change en plein match. Le mec il te met 4 derrière et puis t'as les joueurs ici se regardent en mode bah, on fait comment ? On a joué à 3, on s'entraîne à 3, tu nous fais passer à 4. Et frérot, arrête de changer ta tactique en plein match.
Après, c'est des pros, ils devraient être capables de s'adapter.
Oui,
c'est jouer
sûr,
à 4, à 3, ils ont joué ça toute leur carrière. À 3 ou à 4, c'est pas un problème pour eux.
Après, offensivement, ils sont monstrueux. Sanchez, il est inarrêtable. Le mec il conduit le bus, il fait les coups. Ça s'arrête jamais.
Ils ont 4 points d'avance aussi, Marseille.
Ouais, ça joue. Parce que
oui, mais il y a match en retard ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Contre Toulouse.
Oui, c'est pour ça qu'ils ont 4 points.
Ils vont pas gagner à Toulouse quand même.
Redis-moi ça, ils vont pas ?
Ils vont pas gagner à Toulouse.
Si, si. Non, ils vont pas gagner à Toulouse.
Lens ? Si.
Ouais.
Bon, quoique les Toulousains sont encore un petit peu.
Ils sont fatigués, je pense.
Ils sont encore en gueule de bois.
Ils sont bien sortis, les joueurs.
Ça pose la question justement de l'équitabilité du calendrier. Faire jouer ce match-là.
Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu le faire rattraper en.
Mais déjà, non,
la finale,
oui, déjà, surtout la Coupe de France devrait pas être placée en plein milieu de championnat, mais à la fin de la saison. Ouais, d'ailleurs, c'est le cas de la saison prochaine. Ouais. La saison prochaine, vu qu'il y a 4 journées en moins.
Mais en plus, il me semble que ça a pas toujours été le cas. Là, ils ont réavancé la finale de la Coupe de France.
En fait, ça dépend pas de la Ligue, ça dépend surtout de la disponibilité du Stade de France. Et vu que bientôt il va devoir se préparer pour de gros événements, et je crois qu'il y a des concerts, et même en fin d'année il y a la Coupe du Monde de rugby, même si la Coupe du Monde de rugby c'est loin, mais je crois qu'il y a plein d'événements qui arrivent en juin.
Bah, en juin il y a la France qui joue un match contre la Grèce au Stade de
aussi,
France.
Aussi, ouais, mais voilà. Il pouvait pas.
Tu vois, tu peux très bien jouer trois jours après en France-Grèce à la finale Coupe de France.
Il pouvait pas le placer après.
Bon, puis un stade de foot c'est priorité pour le foot, quoi, donc les concerts ils vont les faire autre part et c'est bon.
Ouais, enfin, il y a un exemple aussi, c'est au rugby, le Racing.
Oui, ils jouent dans la. Je sais.
Et des fois ils vont jouer là, les deux semaines c'était Racing Bordeaux, il joue à Lens.
Ça c'est complètement débile.
Il y avait un concert.
Oui, parce qu'il y avait un concert. Mais ça, c'est parce que c'est le. Ça, c'est, de toute façon, c'est le président du Racing qui l'a choisi lui-même, parce que il est propriétaire de la UARENA. Donc là, c'est le choix.
Le choix de l'argent contre.
Ça, c'est le. C'est le choix du club qui veut se faire de l'argent.
C'est pareil pour le Stade de France. C'est pas les clubs, c'est pas la ligue qui choisit. C'est le propriétaire.
Façon, le club il appartient.
Il devait jouer à l'ancien stade à Colombes pour le concert de Mylène Farmer. Enfin, des trucs. C'est que des trucs.
De toute façon, ils la remplissent pas la UARENA, donc ça change rien.
Cette arène pourrie là avec leur écran là au milieu.
C'est horrible.
C'est dégueulasse.
C'est à l'image du Racing.
On a un peu
c'est prochaine. Un débat parallèle.
On passe au rugby là.
Donc voilà, on verra dès ce soir déjà si Lens met la pression sur Marseille avant le choc entre les deux équipes. Mais si Lens venait à perdre à
même
Toulouse,
à pas gagner.
Même à pas gagner, 3 points. Ça,
même différence de but.
Ça sera duel à distance après, de toute façon, peu importe l'issue des matchs. À part si Lens gagne les deux et vient au-dessus. Voilà, on enchaîne du coup avec une autre équipe de haut de tableau. Enfin, de haut de tableau, peut-être plus pour longtemps. C'est Jean qui veut nous parler de l'AS Monaco qui n'en finit plus de dégringoler au classement. Ils étaient il y a pas si longtemps que ça à la lutte pour le podium, même pour la deuxième place. Et là. Ils vont être à la lutte pour la
Je
Conference
sais pas
League.
Trop dans quelle lutte ils vont se mettre, mais en tout cas, on avait parlé la semaine dernière de Tottenham. Ouais. J'ai l'impression que Monaco, c'est un peu le Tottenham de Ligue 1. C'est-à-dire ils sont en haut, mais ils sont 4e, 5e, ils font pas grand-chose, ils perdent des matchs là contre
4-0 contre Montpellier.
Et c'est vrai que j'avais vu une interview dessus, mais c'est quand même difficile de on est trop indulgent peut-être à Monaco. Je trouve que c'est une équipe qui manque d'âme, qui manque de
supporters déjà.
On peut se demander pourquoi. Hein.
De supporters déjà, mais ils ont quand même 10 Asie en défense, Youssouf Fofana, qui sont deux équipes, non mais deux joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, deux c'est joueurs vrai. Qui ont été en finale de Coupe du Monde,
c'est vrai.
Qui l'ont joué. Enfin, à un moment, c'est des joueurs qui sont pros, qui ont un niveau. International au niveau qui doit apporter cette équipe, Wissam Ben Yedder qui est le meilleur buteur à chaque fois. Je pense que pour moi cette équipe est pas du tout à leur niveau et pour moi sinon de perdre comme ça 4-0 et de ne pas être dans la course à la Ligue des Champions alors qu'ils doivent l'être 100 fois, ils doivent être à chaque fois être au moins en Ligue des Champions chaque année. Avec un effectif comme ça, avec des joueurs qui ont fait des matchs de Coupe du Monde, qui sont internationaux, même si il était gardien numéro 2, mais Nübel il sort du Bayern de Munich.
Ouais, mais de toute façon, t'as plein de joueurs très expérimentés à Monaco.
Il y a des joueurs expérimentés quand même, et je trouve que c'est une équipe qui montre rien et qui se contente toujours de 4e, 3e place et qui pourrait. Même à titiller peut-être le PSG des fois.
Ils ont été champions de toute façon.
Ils ont été champions. Après, il y avait un petit joueur quand même qui était pas mal à Monaco, mais il y avait Mbappé, non ?
Oui, il a fait un peu différent, mais c'était pas lui qui.
Valère Germain,
oui,
plutôt.
Oui,
tu parles de Valère Germain.
Il y avait surtout des joueurs comme Bernardo Silva, des joueurs comme
Fabinho.
C'était un très gros collectif.
Des Falcao.
En demi-finale contre la Juve. Mais depuis, il n'y a plus rien. Et ils refont vivre des fois des joueurs, comme on parlait aussi Jean-Kévin Augustin, qui était revenu à Monaco. Ils font revivre des fois des joueurs comme ça. Je ne comprends pas. Et ils perdent. C'est un peu débile, je trouve, de la part de Monaco.
Est-ce que tu penses aussi que Monaco gâche son effectif ou même son expérience à être quatrième ? Ou est-ce qu'ils sont en fait à leur place plutôt ?
Je ne sais pas, en fait, Monaco. C'est très compliqué. Tu disais qu'on est trop indulgent avec Monaco. On est indulgent parce que depuis pas mal de temps, ils sont chaque année en Ligue des Champions. Même en barrage, c'est la Ligue des Champions. Ils perdent, mais chaque année, ils faisaient la fin de saison qui leur permettait de remonter à chaque fois sur le podium. Chaque fois, ils démarraient mal et ils finissaient bien. Là, ils ont démarré mal et ils finissent mal. C'est sûr que ça n'allait pas non plus arriver chaque année.
C'est moins mal.
De remonter. Ouais. Voilà, là, ils sont quatrième. De toute façon, les clubs français, ils ne sont pas faits pour avec des champions, ils sont faits pour la Ligue Europa. Donc, si Monaco va en Ligue Europa, ils seront très bien en Ligue Europa. Ils feront quelque chose de plutôt pas mal. Après, l'environnement à Monaco, c'est les vacances. C'est comme à Bordeaux. C'est la même chose. À Bordeaux, c'est un club de vacanciers. C'est le bel en bras, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es là-bas, t'es tranquille, t'as les pieds en éventail, t'as aucune pression. À Monaco, comment tu vas avoir la pression quand tu joues à Monaco? Il n'y a pas de supporters, donc tu ne te fais pas bouger. T'as les casinos, t'as le port, t'as le soleil. Même quand l'entraînement, quand tu vas t'entraîner à Monaco, le cadre, il est juste idyllique. T'as les rochers juste à côté, c'est magnifique. Moi, franchement, jouer à Monaco, c'est la sécurité.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Erwan, t'en penses quoi de l'AS Monaco?
Je préfère rire de Monaco. Ce club, c'est une fraude. Clairement, c'est une fraude.
Depuis qu'ils ont été rachetés. Parce qu'avant, Monaco, c'est un grand club. Hein.
C'est clairement une fraude. Les mecs, ils gagnent le championnat, je crois, 2016 2016,
oui.
2016. La même année, en Angleterre, c'est Leinster qui gagne le championnat. Déjà, cette année-là, en 2016, on a dit, c'est bon, on arrête tout. Merci, on oublie.
Non, du coup, c'est 2017.
Non, c'est
2016-2017, alors.
Ouais. 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 Et l'année d'avant, t'as Leinster en Angleterre qui gagne le championnat.
Ouais, c'est ça.
Bon, 2017, là, ouais. T'as deux années là en France et en Angleterre, on a dit alors, on oublie. Leinster, bon, on connaît pas.
C'était un beau champion Monaco en 2017.
Bon champion, les mecs ils savent pas jouer au foot. Excuse-moi, enfin, ils avaient une bonne équipe.
Alors là, on peut pas te laisser dire ça, c'est pas possible.
Ils avaient une bonne équipe, mais après.
Surtout 2017, t'avais Nice, Lucien Favre, Monaco.
On peut les appeler l'Ajax.
Même le PSG et tout qui se fait.
T'arrives pas en 2000 Ligue des Champions, c'était pas jouer au foot.
On peut les appeler l'Ajax, les mecs. Ils ont une équipe de fou. Ils se sont dépouillés. L'Ajax c'était pareil.
Oui, oui, non,
en demi-finale avec des champions, ils se font dépouiller derrière.
C'est le trading.
C'est le principe
du
marché.
C'est leur
mode
de fonctionnement.
C'est leur modèle.
T'es un club avec des joueurs qui marchent, garde tes joueurs.
Aucun club peut le faire ça en France à part le PSG.
Faut juste garder ses joueurs. C'est leur mode de fonctionnement, mais après ils ont pas réussi derrière.
Faut juste taper du poing sur la table. Excuse-moi, tu parles de Disasi qui a joué à la Coupe du Monde. Il a joué contre la Tunisie, s'est fait bouffer par les attaquants. Il a été pleurer sa tente ou je sais pas quoi. Il est rentré en finale. Il est rentré en finale. Je sais plus quand est-ce qu'il est rentré.
Ouais,
apparemment il serait rentré. Moi je l'ai pas vu. Je crois que personne l'a vu.
Moi j'avoue qu'il y a Mbappé de toute façon en finale.
Je crois qu'à partir du moment où ce mec rentre
sur le terrain,
et
Martinez.
À partir du moment où ce mec rentrait sur le terrain, on est passé de 10 contre 11 parce que Koundé non plus sert à rien, à 10 contre 11 quand même, non, parce que Disasi n'a servi à rien.
Oui, mais justement je pense que disait Jean, c'est que tu vois peut-être il a pas le niveau pour être titulaire en équipe de France internationale, mais du coup c'est un joueur qui est du coup censé être un bon défenseur de Ligue 1.
Bah oui.
Parce que du coup, le mec est justement allé en équipe de France plus fort, plus haut, peut-être trop haut pour son niveau. Mais le mec est quand même censé être un bon défenseur de Ligue 1, titulaire. Quand il joue à Reims, c'était aussi un tollé dans les défenseurs de Ligue 1. Après, on peut ne pas aimer ou.
Moi, je suis pas fan de Disasi non plus. Je suis pas fan de ce joueur.
Tu vois, il est quand même censé être un joueur de. Joueur de Ligue 1, quoi.
Oui.
Et qui doit être présent.
Il doit être un cadre de Monaco, sauf qu'on.
Bah, il l'est pas.
Monaco, il y a pas beaucoup de cadres.
Non, mais il partirait à Aston Villa ou quoi pour. 40 patates.
Voilà, mais c'est ce qui va se passer. Il va totalement rater, puis il va revenir en France dans un autre club.
Comme Sidibé.
Ouais, voilà. Mais c'est
comme Thauvin, qui est parti de l'OM à Newcastle, qui a fait n'importe quoi, qui est revenu à Marseille. Voilà, il va faire aller-retour. Comme Morgan Sanson, qui est parti de Marseille à Aston Villa et qui est revenu à Strasbourg.
Voilà.
Comme Gilbert, qui est parti de Strasbourg à Aston Villa et qui est revenu à Strasbourg.
Sanson, c'est parce qu'il était nul.
Oui, mais.
Mais pourtant, à Marseille,
après, c'est pas grave, tant qu'ils rapportent de l'argent.
Oh bah oui.
Les clubs,
de l'argent. Bah, à Monaco,
c'est le modèle de tous les clubs français, à part le PSG.
Plus ils auront d'argent, plus ils pourront s'acheter de supporters, non?
Encore. Et bien, du coup, on clôt également ce dossier Monaco. Il n'y a que des équipes qui vont mal. Et là, une troisième équipe.
Qui va très bien.
Erwan, tu voulais nous parler de l'énième faux pas du PSG. Je sais pas, ça fait la combienième fois qu'on répète ça. Donc, nouvelle défaite pour le PSG de Christophe Galtier.
Tout va bien à Paris, non? Bah, attendez, les infrastructures se construisent. Nasser gagne de l'argent. On parle de quoi? Le plan sportif? Non, ça, ils s'en foutent au PSG. Ça, le plan sportif, ils s'en foutent. Les mecs sont éliminés avec Ligue des Champions, ils en ont rien à faire. Leur entraîneur est taché, ils en ont rien à faire. Ils perdent face à une équipe qui a dans le dos un sponsor de jeux vidéo. Et t'as Galtier qui se pointe en conférence de presse et qui dit bah il faut. Et c'est le seul mot qu'il a en bouche, il faut. Bah frérot, avec Dessy, on refait un monde. Avec Dessy, Lyon est champion de France, mais pourtant on ne l'est pas. On est un peu loin.
Beaucoup de si alors.
Ouais, beaucoup de si. Il va falloir un sacré sac. Hein. Mais même, non, mais il y a un moment, chaque conférence de presse, chaque faux pas du PSG, tu vois les joueurs qui disent il faut, l'entraîneur, fais, arrête de dire il faut. Enfin, les mecs, ils étaient inexistants. Inexistants face à Lorient. Et pourtant, Lorient, c'est pas non plus des fautes de Dreger. Les mecs, ils ont presque plus rien à jouer. Hein. Eux, ils sont là. Ils ont fait leur saison. Merci, au revoir.
Ils ont fait leur début de saison.
Ouais.
Jusqu'à décembre, à peu près.
Maintenant, ils peuvent partir en vacances tranquilles, les mecs. Ils sont sauvés, les mecs.
Les merlus.
Ah ouais. Mais alors, Paris, à côté, eux, ils se disent pas que derrière, il y en a qui reviennent parce que Marseille, eux, a gagné. Ça fait 5 points d'écart maintenant. Mais non, à Paris, tout va bien. Ça va visiter des infrastructures. Léo Messi se permet un petit voyage en Arabie Saoudite sans personne que le sache. Bah ouais, tout va bien. C'est le lendemain de défaite en plus. Non, le PSG nouvelle génération est ouais, assez drôle. Vivement la fin de saison, je pense, pour eux. Le PSG Qatar cette année, il est terrible. Terrible.
Oui, tu veux réagir, Jean ?
Au limite, on arrête d'en parler parce que, enfin, vivement la fin de saison. Voilà, ils font leur petite vie, ils vont être champions, ils vont faire leur petit tour comme ça avec, devant les supporters.
Je crois que s'ils gagnent cette saison, ils dépassent Saint-Etienne, non
ouais. Ah ouais.
Ils deviennent les de tous les temps le plus nombre de titres de Ligue 1, donc ils seront contents, ils ont gagné ça. Après le trophée des champions en août, ils gagneront.
Non.
Ils vont mettre une toile à tout le monde va dire que le PSG est supérieur et puis après la saison d'après ils vont faire de la merde pendant 4 journées et puis on va dire finalement en fait.
Surtout que s'ils trouvent pas d'entraîneur, Galtier il va rester.
Je pense qu'ils vont en trouver un coup de cocoute.
Nagelsmann il est disponible non.
Thomas, t'as quelque chose à dire sur le PSG
non,
ou pas?
Paris, je ne dirai rien, j'ai dit que j'arrêtais d'en parler la dernière fois.
C'est vrai.
Moi je dis plus rien sur Paris, c'est terminé pour moi Paris.
fin de saison.
Rendez-vous l'année prochaine, j'attends.
Ouais voilà, rendez-vous l'année prochaine, on arrête.
Ouais. Rendez-vous l'année prochaine.
L'an prochain, ils vont se faire éliminer en 8e.
Oui, sûrement.
Pour Paris. Et du coup, vous écoutez bien le 12e homme tous les mardis soirs sur Radio Campus et en podcast sur toutes vos plateformes préférées. Et on enchaîne avant de passer au point spécial Coupe de France sur nos top flops du week-end. Donc on commence avec toi, Erwan. Quels sont tes top flops du week-end?
En top, Montpellier. Parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un au-dessus de Lyon perdre, ça fait toujours du bien. Puis après, une sacrée caque de Montpellier qui a joué un football, c'est un énorme football qu'ils ont joué ce week-end-là, et 4-0 face à un Monaco à la rue, et flop, on va en parler après, mais c'est Nantes, hein. Mais qu'ils arrivent en finale, les mains dans les poches, et ils en prennent 5 et ils repartent en pleurant.
Jean, tes top flop du week-end?
Moi, mon top, c'est la victoire de Lille, 3-0 contre Ajaccio, et qui fait un gros coup parce que, avec la défaite de Monaco, ils reviennent à 2 points. Donc, ça peut être intéressant, et surtout, un top dans le top, on en a souvent parlé, mais André Gomes, encore une fois, il marque un but fantastique. Enfin, voilà, très bien, je suis content. Et top, Messi, qui fait son petit voyage en Arabie Saoudite, qui chie encore un petit peu plus sur le club. Et voilà, lui aussi, vivement qu'il parte, parce que là, ça commence à être pénible pour tout le monde.
Ouais, du coup, moi, mon top du week-end, c'est Toulouse. 5-1 en Coupe de France. Franchement, la finale rêvée pour tous les supporters de foot dans une finale. Gagner 5-1 comme ça, 4-0 à la mi-temps. Bravo à Toulouse et c'était très beau à voir. Et mon flop, c'est Paris. Paris qui perd donc contre Lorient, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, défaite inadmissible pour ce qui sera sûrement le futur champion de France. Perdre 3-1 comme ça contre Lorient, il n'y a rien à dire.
Moi, mon top, c'est le coaching de Tudor. On l'a souvent critiqué pour son coaching, critique qui était méritée parce que Tudor est un entraîneur qui fait le moins de changements en Ligue 1, il n'aime pas beaucoup changer ses joueurs pendant le match, mais là il a fait deux bons choix. Il a fait le choix de faire rentrer Payet qui est sorti du McDo et qui est arrivé sur le terrain directement, mais qui a fait une très très bonne rentrée. Et ensuite Guendouzi qui est rentré aussi et qui a apporté, je pense que sans ces changements, Marseille n'aurait certainement pas gagné le match, peut-être égalisé, mais ça a apporté une vraie dynamique au match. Alors le flop, je voulais mettre le PSG, mais je me suis dit finalement je ne vais pas en parler. Donc j'ai choisi Adil Rami et les supporters de Troyes. La saison de Troyes, tourne au cauchemar. Déjà, ça partait très mal avec Kirles qui se fait virer, puis Kisboro qui arrive, qui est un peu pas très bon entraîneur, on va dire. Embrouille après match. Déjà, pendant le match, il y avait pas mal de chambrage des supporters troyens envers leur équipe. Ouais. Et après le match, il y a Adil Rami et les supporters qui sont un peu parlés. Et Adil Rami s'est pas laissé faire. Et j'ai cru revoir Patrice Evra contre les supporters de Marseille avec le petit high kick en match de Ligue Europa.
Il a pris exemple.
Mais Adil Rami, c'est... Bon, j'ai pas vu les images entièrement, mais il s'est à peu près contenu. Donc, mais il va quand même avoir des sanctions à venir pour les supporters, je pense. Et aussi pour Adil Rami, je sais pas quelle sera la teneur de la sanction. Rami ne sera sûrement pas là l'année prochaine à 3. Et j'ai envie de poser une question, c'est que fait le City Group avec 3 parce que l'objectif de City, c'est de proposer du football. Ben, à 3, il propose pas grand-chose. Donc on verra l'année prochaine en Ligue 2 si les investissements sont toujours présents ou s'ils vont lâcher le club.
Ouais. Ben, du coup, on clôture cette page Ligue 1.
Pour être faible et pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde.
Ouais, du coup, aujourd'hui, point monde inédit, parce que c'est pas un point monde, c'est un point français, et on revient ensemble sur la très belle victoire de Toulouse, 5-1 en Coupe de France face au FC Nantes. Qui est-ce qui veut commencer à en parler? Thomas, peut-être.
Peut-être que je vais commencer à en parler. Alors,
heureux ou pas?
Très content. En fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que je peux commencer par dire que jamais... Mais alors, jamais je n'aurais imaginé un tel scénario de match. Mener 2-0 au bout de 10 minutes, 4-0 au bout de 33 minutes. Franchement, je pense que personne ne l'aurait imaginé. C'est assez incroyable. Déjà, le contexte du match, c'est que Nantes arrive un peu en mauvaise dynamique du championnat. Mais il l'avait dit, Comboré l'avait même dit, que... ils étaient bons en coupe et nuls à chier en championnat. C'est ces mots, hein, il me semble. Mmh. Donc, on s'était dit que Nantes va réussir à faire abstraction du championnat. Moi, j'y ai cru. C'est pour ça que j'étais quand même assez stressé avant le match. Je me suis dit, Nantes en coupe, c'est pas le Nantes du championnat. Côté toulousain, c'est l'inverse de Nantes. C'est clairement, bon, c'est pas non plus une dynamique resplendissante, mais c'est quand même, pour un promu, ils font une très bonne saison. Et en coupe, on avait le dernier match contre Annecy, qui était complètement nul. Justement, alors, à cause du terrain qui, certes, n'était pas vraiment fou, mais aussi à cause de la pression que ces joueurs s'étaient mis pour justement aller en finale. Il y avait une certaine pression. Donc je me suis dit, est-ce que les Toulousains qui vont arriver en finale dans un stade de France qui fait 80 000 places, avec un stade avec 60%, 70% de supporters nantais, est-ce qu'ils n'allaient pas justement avoir un petit peu la pression et avoir un petit peu peur? En plus, désolé, mais la cérémonie d'avant-match qui dure un quart d'heure, les joueurs dans le couloir pendant un quart d'heure, c'est assez long, les joueurs ont le temps de se refroidir. Et en fait, dès les deux premières minutes, j'ai directement compris que le match allait tourner pour Toulouse. Dans les duels, au deuxième ballon, il n'y avait que des joueurs de Toulouse. Dans les duels aériens, ils gagnaient Dalinga qui gagnait tous les duels aériens face à Palois. On l'a rapidement. Et Nantais qui fait trois fautes dès le début du match, ils font trois grosses fautes qui amènent trois coups francs. Après le corner, le but, premier but de Costa et le deuxième but qui vient justement sur une faute sur le côté provoqué par Shaibi qui fait le deuxième but de Costa. Donc dès le début, on a vu que franchement, Toulouse allait prendre le dessus et ça s'est vu dans les buts. Dans le jeu, franchement, ça jouait, c'était fluide, ça jouait une touche, deux touches, trois touches, ça ressortait. Le troisième but, la passe sur le troisième but là de Soiseau, latéral toulousain, qui vient contourner le défenseur nantais, cette passe, elle est juste magnifique. Et après le quatrième but, bon, bah, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Le poteau, il est avec Toulouse, encore un petit peu de réussite. D'ailleurs, il faut noter que sur les 5 buts sur 7 tirs cadrés quand même. 7 tirs cadrés, 5 buts. Ça veut dire aussi que la réussite a été énormément du côté de Toulouse. Il ne faut pas non plus négliger ce point-là. Et puis, il y a aussi le match des tribunes. Parce que moi, on m'a dit que les Nantais, apparemment, ils allaient être plus nombreux. Ils étaient plus nombreux, qu'ils allaient faire énormément de bruit, que c'était... que c'était une des plus grosses communautés de France, c'est vrai, avec un tifo vraiment magnifique. Bon, le tifo de Nantais, désolé, mais par rapport à celui de Toulouse, il était vraiment horrible. Le tifo de Toulouse, je pense qu'il atomisait le tifo de Nantes. Et puis, les Nantais, au bout de 10 minutes, bah, on ne les a plus entendus. Donc, un match gagné sur le terrain, dans les tribunes. Ah, par contre, une défaite, la défaite des journalistes. Hier soir, j'ai entendu un journaliste de l'équipe, enfin un journaliste entre guillemets, dire que Toulouse, lui, ça l'intéressait pas, qu'ils recrutaient des joueurs de seconde zone dans les Pays-Bas néerlandais, qu'ils étaient là pour faire mettre en valeur le football néerlandais plutôt que le football français, que la data ça l'intéressait pas, que je sais pas quoi. Ben, ce mec-là, j'ai juste envie de lui dire, mais rentre chez toi et ravale ton seum. C'est incroyable d'être journaliste et de dire ça à la télévision française. Moi, ce mec-là, il devrait être viré pour faute grave. Tu peux pas dire ça en étant journaliste, c'est n'importe quoi.
Oui, bah après, de ce match, oui, bah, victoire Toulouse. Après, c'est sûr, supporter nantais. En tant que supporter nantais, je veux bien chanter avant. Tu prends deux buts au bout de 10 minutes, tu t'es un petit peu quand même, tu te refroidis un petit peu. Moi, je suis même déçu pour les supporters nantais plus que les joueurs parce que.
Voilà, ça, ils l'avaient gagné l'an dernier, c'est bon.
Ils l'ont gagné l'an dernier, allez.
Ils l'ont mérité.
Ça, mais voilà, tout l'investissement qu'ils font et tout ce qu'ils se donnent à fond pour aller vivre cette finale.
Ils iront battre les records d'affluence de Saint-Té en Ligue 2.
Voilà. Et ils prennent 5 buts. Bon. Mais. Mais voilà, après aussi on peut replacer dans le contexte, peut-être que Nantes n'était pas dans cette finale, tu l'as dit, ils en étaient conscients, mais bah, ça s'est vu, Toulouse avait joué cette finale pleinement, sans penser à ce match de mercredi, ou de ce soir, pardon, alors que bah, dans les têtes nantaises, voilà, il fallait... Tu fais un nul miraculeux contre 3 juste avant d'aller jouer Toulouse. Qui vont, tu savais que Toulouse allait tout donner de toute façon. Ils n'ont rien à jouer. Ils n'ont rien à jouer dans le championnat. Donc c'était leur truc. C'était, ouais. Voilà. Bon, bah, ils se sont fait rouler dessus. C'est dommage parce que bah, ils n'ont rien montré. Donc tu peux avoir que des regrets en ne montrant rien. Et Toulouse, moi je suis pas non plus. Je regarde pas tous les matchs de Toulouse, j'avoue. Mais franchement, Dalinga était. Impressionnant, oui. Shaibi, j'ai trouvé trop
très
fort.
Bon joueur.
Et voilà, et comme on en a discuté, enfin c'était des joueurs qui sont, il y a le 3 de Toulouse, je sais plus.
Le 3.
C'est. Ouais.
Dessler,
ouais. Avec lui, c'était pas un joueur de deuxième division.
Ah, mais il vient tout de.
Voilà, il vient tous de comme ça, ouais. Et l'entraîneur a réussi à les pousser vers le haut, et voilà. Bah, très content pour Toulouse. Ouais. Content pour
va jouer la Coupe d'Europe
toulousaine pour le Capitole, et voilà. Ouais. Parce que c'était un truc de fou quand même.
Ouais. Erwan, tu voulais nous parler de la finale, toi aussi. Qu'est-ce que tu avais à nous dire?
Bonjour, supporter lyonnais frustré de s'être fait sortir par une équipe comme Nantes, vu ce qu'ils ont proposé. Non, en vrai, j'étais au Capitole pour la fan zone. Grosse ambiance. Bon, en même temps, la fan zone était là depuis 16h pour le match de rugby, donc la plupart des supporters étaient déjà bien bleus, si ce n'est bleu foncé.
Violet.
Violet, ouais, ils ont fini la soirée noire, à mon avis, certains, parce qu'avec l'alcool, a dû bien flotter. Tout comme la pluie qui avait bien flotté sur Toulouse, mais ça n'a pas arrêté les supporters. Les fumigènes étaient là, fumigènes violets, évidemment. Donc, grosse ambiance au Capitole. On a vu passer, je crois, j'ai dû voir passer un supporter nantais.
Et qui voulait là.
Je sais pas, c'est bon. Il avait un manteau, on a supposé qu'il avait froid. Bon, normal, en même temps, au bout de 10 minutes, la clim était installée. Mais non, grosse ambiance, et puis ouais, gros match de Toulouse. Et puis bon, ben voilà, donc maintenant, que Nantes aille en Ligue 2. Et nous, à Lyon, on va continuer à pleurer.
Moi, je préfère aller en Ligue 2 aussi.
On va pleurer.
Moi, Nantes en Ligue 2, ça me ferait un peu chier quand même parce que je préfère voir un Brest en Ligue 2 qui ne montre pas grand chose qu'un Nantes qui a un grand stade, qui a des.
Ouais, non, mais c'est
qui
ça.
Amène quelques. Enfin, je trouve ça triste quand même pour le FC Nantes qui est un club historique de Ligue 1.
Ouais.
Qui se fait humilier comme ça. Après, bon, je suis pas du tout supporter nantais, mais je trouve qu'il a manqué quelque chose. Et aussi Camboré, qui a raté son coaching, lui qui était. On disait que c'était pas un coach. On l'appelle souvent quand il y a des équipes dans le maintien ou dans le dur parce qu'il arrive avec des grands discours, un peu à Pascal Duprat, à venir.
C'est le frère Duprat.
Et venir faire émerger un groupe et les aider à se maintenir, comme il avait fait avec Dijon. Mais bon, là, il s'est trouvé, comme toute l'équipe, il s'est trouvé. Nicolas Palois, lui, il s'est aussi trouvé. Ludovic Blas, il a été transparent.
En plus, fait du bien de le voir transparent, ce mec-là.
En plus, quand ils mettent le premier but, je fais, allez, là, il faut marquer de suite. Il faut marquer de suite pour y croire. Il prend un but direct. Je fais, bon, allez, 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 bisous.
Non, mais voilà.
Et voilà.
faut dégonner quand même.
Ouais.
4-0, si tu perds, franchement, si Toulouse avait perdu la finale en gagnant 4-0 à la mi-temps, c'est une faute professionnelle hallucinante.
Oh, bravo pour Toulouse quand même.
Ouais. Voilà.
Et en Ligue Europa ou pas?
Bien sûr, Ligue Europa. Alors, bien Ligue sûr, Europa. Ça sera réglé en 30 secondes, il n'y a aucun problème.
Non, mais ils vont faire des petits arrangements comme Leipzig.
Faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Hein.
Le problème, c'est que j'ai vu ça passer par tout le monde. On est en train de parler par Toulouse, ils vont pas aller en Ligue Europa, mais on en parle de Red Bull. Ils ont Salzbourg et Leipzig, les mecs des fois s'affrontent.
Non, justement.
Si, mais ils avaient fait une magouille.
Ils ont fait une magouille, c'est ça que je dis. Ça, ils vont faire une magouille aussi.
Il va y avoir la même.
Toulouse, oui, c'est ça.
Red Bull, roi de la magouille. Donc.
Parce que le propriétaire, pour rappeler à nos auditeurs quand même qui nous écoutent, le propriétaire de, et ils sont très nombreux à nous écouter, et le propriétaire de Toulouse et aussi le propriétaire de Milan.
C'est le même fonds d'investissement américain.
Ouais.
Donc il ne faut pas qu'ils s'affrontent dans la même compétition.
Voilà.
C'est donc, ça, à part que... s'ils changent, des... c'est ce qu'a fait justement les deux Red Bull. En gros, les dirigeants qui étaient en Salzbourg et à Leipzig, en gros, ils ont quitté... Les fonctions à Leipzig et du coup ils sont toujours qu'à Salzbourg vu que c'est une entreprise autrichienne, Red Bull.
Et Ligue Europa l'année prochaine contre Liverpool peut-être, contre des gros clubs. Mais en tout cas moi je pense que Toulouse va bien représenter le football français en Ligue Europa parce que c'est une équipe qui va jouer à fond, ça j'en suis, comme Nantes cette année je pense qu'il... Déjà moi...
Mieux que Nantes.
Franchement, mieux que Nantes, ça dépend du tirage. Tu peux tomber contre la Juve en 8e, désolé.
Non,
mais
parce
je pense
que Nantes, au final, c'est leur match contre la Juve qui est héroïque, mais leur parcours avant.
En foule, ils n'ont pas été bons. Hein. Après,
Liverpool au stade de Toulouse, j'y vais de suite. Hein. Je suis le premier devant le stade, hein, je vous le dis.
Il marque un but un peu miraculeux, les Nantais contre Olympiakos. Oui. Ou contre...
Non, mais on va voir.
Même contre, la Juve, ils font des matchs.
En Ligue Europa, c'était difficile. Mais...
Moi, je veux la plus grosse poule possible avec toutes les grosses équipes. Quitte à sortir en poule, autant jouer contre des gros. Et puis pourquoi pas être reversé en Ligue Europa Conférence ? Au moins, là, on pourra peut-être espérer quelque chose. Parce que c'est
avec Lyon.
Pour se faire sortir par les c'est mal.
Non.
Non, s'il vous plaît. De Jean-Kevin Augustin, le monégasque, bien sûr.
Non, le parisien.
Il y a ma fille nulle.
Et si on parlait du Pau FC ?
Voilà. Oui, vas-y, Thomas.
Le Pau FC.
Je t'en prie.
Parce que, quand même, c'est bientôt fini. Et Pau va peut-être...
être champion.
Non. Restés en Ligue 2, ce week-end ils ont perdu contre Nîmes 3-2 je crois, avec un but encore de Begraoui qui enchaîne les buts. D'ailleurs c'était la pire affluence pour un match de Ligue 2, 500 spectateurs à Nîmes, bien sûr.
De tous les temps ?
Je sais pas de tous les temps, mais depuis un moment, avec un très bon président à Nîmes qui empêche les groupes de supporters de supporter. Il lui reste 5 matchs, 5 finales. J'ai pas vu contre qui jouer exactement, mais 5 matchs, 5 finales pour se maintenir.
Ce week-end, c'est Rouen à domicile.
Voilà, ouais. Rouen, ça
c'est à Valenciennes, réception de Bastia, déplacement à Rodez.
Ok,
là ça va être le match.
Ça devrait être pas, c'est abordable.
Et réception de Caen,
parce que les clubs là n'ont plus rien à jouer, donc ça devrait être abordable. Mais attention, Dijon avec Pascal Duprat qui revient. Pascal Duprat.
T'as
le classement là.
C'est juste le nom Pascal Duprat. C'est à chaque fois que ce mec il est dans un club, c'est parce que le club il est dans la merde. Il y a un moment, faut dire ce qu'il y a. Ce mec il est pas fait pour jouer au tableau.
Ah bah non.
Non. Que vit Rouen. Bon, on a plus rien à jouer. Et par contre, la semaine prochaine, dans deux semaines après, c'est Valenciennes à Valenciennes qui est 15e et Pau est 14e.
Voilà, un match important. Voilà. Et aussi, je voulais, vu qu'on parle de Pau, ça m'a fait penser à ça, à la Gambardella. Vu que Monaco a éliminé Pau. En demi, et ben Monaco a gagné la Coupe Gambardella 4-2 contre Clermont. J'ai regardé un peu le match, c'était un match assez sympathique. Il y a pas mal de petits joueurs sympas, surtout les trois milieux monégasques là à suivre. Mais après, à Monaco, pour voir comment ça finit.
Puis à Clermont aussi. Hein.
Clermont, il y a des bons joueurs.
Même la demi-finale contre Rennes, j'ai regardé, mais c'était vraiment pas mal. Hein. Pas mal du tout.
Surprenante.
En plus, le but qui marque, pour revenir à Pau Nîmes, ils prennent un but à la 94e minute dans le temps additionnel alors qu'ils venaient d'égaliser. Diétolo l'a dit, on a fait un match de merde, on a un résultat de merde. Donc, grosse déception parce que.
Ils ont fait un peu une Tottenham quoi.
Voilà, il faut prendre Lucas.
Ça fait beaucoup de Tottenham dans tous les championnats.
À la dernière minute, c'est Charlison qui célèbre en enlevant son maillot. Et hop, à l'engagement, Diogo Costa qui marque le but pour faire gagner Liverpool ce week-end.
Ou Jota. Roma Milan, je crois. c'est ce week-end où il y a eu 1-0 ouais. À la 93e et 96e but.
Non, mais là, la passe en profondeur de Lucas pour Jota, elle est parfaite. Elle est parfaite dans les pieds du joueur, profondeur parfaite.
Ouais, ouais. Et voilà, 93e minute, alors qu'ils avaient marqué un but à la 84e. C'est dur. Sur mais penalty. Je
le
pense
deuxième
que
sur penalty.
Le deuxième but de Pau sur penalty.
Mais c'est le foot. Hein.
Voilà. Bref, match de merde, résultat de merde. J'ai bien aimé cette expression. Et bah voilà. Bah c'est bon, on a fini le.
Ouais, on a fini cette émission. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine
ouais.
Pour en parler.
Peut-être la dernière émission.
Peut-être c'est la dernière émission.
Voilà.
On verra, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à la prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine. Ouais.